2 ans environ pouvait voir sa demande recevable. Je crois qu'il ne faut pas attendre de cet élargissement une modification considérable de la situation, hein, du prélèvement chez les donneurs vivants, parce que la répartition des donneurs vivants pour un receveur potentiel, ça se fait à peu près selon les 4 quarts, je dirais. Il y a un quart pour les frères et sœurs, il y a un quart pour les conjoints, un quart pour, je ne sais pas si je vais y arriver, un quart pour les parents et un quart pour les enfants. Voilà. Donc ça se fait, c'est assez facile à retenir, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors après, c'est beaucoup plus anecdotique quand on va chercher grand-papa, grand-maman ou les oncles ou les tantes ou des cousins, c'est quand même beaucoup plus anecdotique. Par contre, ce qui n'est pas anecdotique, c'est les non-apparentés entre époux ou affectivement liés, et ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, il y a une évaluation psychologique et psychiatrique. Il faut que ce don soit vécu de façon, je dirais, apaisée, normale, pas théâtralisée. Voilà. Donc ça, on a des spécialistes qui évaluent ce problème et qui aident aussi et qui soutiennent à la fois donneurs et receveurs. Nous, on fait plus de la psychologie auprès de nos receveurs et évidemment, c'est les psychiatres qui évaluent la solidité psychique des donneurs potentiels. Alors, il y a un comité d'experts indépendants qui est... Alors, c'est compliqué, il y en a 9 en France, il y en a un par grande région. C'est constitué de 5 membres, 3 médecins, un spécialiste en sciences sociales, et puis 3 médecins en sciences sociales et l'autre personne, c'est Michel, aide-moi. Je ne sais plus. Bref, des gens sérieux. Et ils donnent un avis et ils n'ont pas justifié leur avis. C'est-à-dire qu'en fait, ils expertisent à la fois le receveur qu'ils ont devant eux, potentiel, mais aussi ils évaluent toute la stratégie, la formation, le bilan qui a été fait pour s'assurer que, et bien sûr, ce comité est indépendant des équipes de greffe et de prélèvement et ils n'ont pas à se justifier. Si c'est non, c'est non. S'ils nous disent qu'il ne faut pas le faire, on ne le fait pas. Et puis, le président du tribunal de grande instance va enregistrer donc, la demande et lui aussi vérifier qu'il n'y a pas de problème, que les informations ont été bien données, et toutes les informations et qu'il n'y a pas eu de s'assurer qu'il n'y a pas eu de pression ni psychologique, ni financière, ni aucune sorte sur le donneur. Donc la prise en charge des frais directs et indirects est maintenant bien précisée par la loi. Ça a progressé. De même, le statut juridique du donneur a également progressé avec un droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Bon, il faut prévoir tout et surtout les catastrophes parce qu'il y en aura toujours. Les résultats donc, chez les receveurs d'une transplantation, enfin d'un rein prélevé chez un donneur vivant sont toujours meilleurs que... la transplantation effectuée à partir d'un donneur décédé. Et je vous ai donné les chiffres, 90% donc de bons résultats de survie de greffon à 5 ans versus 80% pour les greffes effectuées à partir des donneurs décédés. Et à 10 ans, donc 80% de survie du greffon versus 63%. Donc c'est quand même une différence notable. Et ça, c'est retrouvé partout. Hein. C'est toujours meilleur et partout, dans tous les centres, dans tous les pays. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors pourquoi cette différence ? Parce qu'il y a un problème de qualité du greffon. Alors, je peux parler de l'âge. C'est vrai que quand même, quand on a un greffon d'un sujet pas trop âgé, c'est quand même un meilleur greffon qu'un greffon prélevé chez un sujet âgé ou très âgé. Donc la qualité du greffon, sont des donneurs qui sont toujours en excellente santé, parce que s'ils ne sont pas en excellente santé, on ne prélève pas. Donc, ce n'est pas toujours vrai pour les donneurs prélevés après une mort encéphalique, qui ont fait un accident vasculaire cérébral, qui ont un passé vasculaire, qui peuvent être hypertendus, ignorés, voire diabétiques également ignorés. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas d'orage hormonal et cytokinique lié à la mort encéphalique. Il y a une ischémie chaude qui est réduite ou inexistante. Pas d'ischémie froide prolongée, très courte, 2 heures maximum, 2 ou 3 heures. Donc, un greffon qui repart en général tout de suite. C'est une intervention qu'on peut programmer, voire et qu'on essaye d'organiser en préemptif, c'est-à-dire avant même d'avoir la nécessité de mettre en route les techniques de suppléance par la dialyse. Donc, c'est quand même quelque chose de très très appréciable, notamment en ce qui concerne l'impact familial, social, scolaire, universitaire, de ne pas avoir sa vie interrompue par une période de dialyse, même relativement courte. C'est quand même quelque chose d'extrêmement appréciable. Et puis, bien sûr, les rejets sont moins fréquents globalement et les traitements immunosuppresseurs plus légers, donc pour un meilleur résultat. Donc, on se doit d'expliquer ça à la fois au patient et receveur et à son donneur potentiel. Alors, les résultats chez le donneur, donc il y a une mortalité opératoire. Alors, ça, c'est un problème qui pour le donneur, est difficile à appréhender parce que si on dit, vous savez, c'est la mortalité, c'est comme pour toutes les interventions avec une anesthésie générale, intervention abdominale avec une anesthésie générale, ça va être du 0,02 à 0,03%. Donc, ça fait 2 à 3 pour 10 000 interventions. On peut se dire, finalement, si je prends ma voiture, je vais à Royan au mois d'août, j'ai peut-être plus de chances de rester sur le goudron que. Bon, mais chacun peut réagir là. C'est la conception du risque qu'on a, c'est extrêmement, je dirais, personnel et subjectif. On explique, bien sûr, les techniques de prélèvement, alors chirurgie à ciel ouvert ou par laparoscopie. Il y a un engouement pour la laparoscopie parce que c'est quand même moins délabrant, il y a moins de cicatrices, ça fait moins mal dans les suites, mais il y a peut-être un risque opératoire un peu supérieur, notamment en termes d'hémostase au niveau du petit moignon d'artère rénale qu'on va laisser. Hein, donc il faut faire extrêmement attention. Il y a des règles très très strictes parce qu'il y a eu des accidents sur des lassages de clans, et donc maintenant il faut vraiment en mettre deux. Il faut mettre un fil quand on opère, il faut mettre un fil sur l'adventice de l'aorte pour pas qu'il y ait de rétraction du moignon, etc. Enfin bref, il y a des précautions à prendre extrêmement rigoureuses. Il faut des chirurgiens extrêmement avertis et des spécialistes de ce type d'opération. Et les complications post-opératoires, il y en a qui peuvent, dans 1% au maximum des cas, nécessiter une réintervention. Qui sont en général des problèmes de collection hématique et qui se règlent avec une réintervention. Alors, à long terme, quels sont les risques? Donc, vous savez tous qu'on peut vivre toute sa vie avec un rein fonctionnel unique. Hein, de nombreuses personnes naissent avec un rein fonctionnel unique. Finalement, après le prélèvement, le receveur va retrouver une fonction rénale à 70-85% de sa fonction rénale initiale, avec le processus d'hypertrophie compensatrice du rein. La réserve fonctionnelle rénale fait que finalement, quand on n'a plus qu'un rein, ce rein fait le travail de 1,5 rein à peu près, voire 1,7 ou 8 parfois, dans le meilleur des cas. Donc cette fonction rénale peut être considérée comme tout à fait satisfaisante. Il y a une proténurie très discrète qu'on retrouve un peu plus souvent que chez les témoins, mais qui traduit simplement le travail du rein, qui est en général pratiquement toujours inférieur à 0,2 g par jour. L'hypertension artérielle ne voit pas son incidence augmenter. Et la survie des patients, quand on les étudie à distance, est meilleure que dans les populations témoins, mais c'est parce qu'on les a sélectionnés. Ils n'ont pas de problème cardiaque, ils ne sont pas diabétiques, ils n'ont aucune maladie, ils n'ont pas d'infection, donc ils sont forcément en meilleure santé 20 ans, 30 ans ou 40 ans après que la population générale. Et au total, le risque d'insuffisance rénale chronique est de 0,001% sur 50 000 étudiés sur une série de 50 000 donneurs vivants, avec un recul moyen de 15 ans. Donc, difficile de dire si c'est un sur-risque par rapport à la population générale, mais c'est vrai que quand on sait qu'on a un seul rein, il y a quelques précautions à prendre et on sera sans doute un peu plus vigilant dans la diététique, dans les conséquences éventuelles de certaines maladies, en particulier le diabète, l'hypertension ou les infections. Et puis, donc, il y a une influence positive du don sur la qualité de vie, bien sûr, pour les donneurs. Ils sont en général assez fiers. Donc, quand même, comme le plus souvent, ça marche et ça marche très bien, ils sont quand même très, très contents de pouvoir non seulement voir vivre son proche pratiquement normalement, mais eux aussi d'avoir une vie qui se rapproche de la normale parce que, voilà. Et donc ça, c'est extrêmement gratifiant et très peu donc regrettent leurs gestes, même en cas de difficulté, même en cas d'échec. Et puis les partenaires des donneurs sont parfois un peu jaloux, mais ça, je ne vous raconterai pas d'histoire là-dessus. Donc les résultats sont meilleurs, je vous l'ai dit. C'est quand même assez. Les pentes, vous voyez que les pentes, les demi-vies sont très différentes entre les donneurs HLA identiques et puis les sujets décédés. Et on double quasiment la demi-vie estimée. Ce sont des demi-vies estimées, sans surfaite des pertes de greffons par décès des patients. C'est quand même une différence très très importante et qui se creuse avec le temps. Et les résultats sont de mieux en mieux avec le temps. Voilà, je vais en rester là. Je ne vais pas résister à citer M. Jean-Pierre Raffarin, qui, dans un article dans le dernier numéro, un des derniers numéros de La Vie, je crois que c'est le dernier, disait à propos de l'art de gouverner, mais ça peut peut-être se rapporter au don et à la greffe. Finalement, on est utile quand on donne et quand on reçoit. Voilà, je vous remercie.
Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos orateurs, donc sur finalement deux sujets différents avec un seul même but.
Deux petits commentaires, deux questions en fait. Est-ce qu'on a, avec le recul maintenant, des données sur la mise en place du plan Cristal dans les hôpitaux? Le recensement dans tous les services de morts potentielles encéphaliques, comment ça marche, comment ça fonctionne, quels résultats ça donne. Parce que j'ai quand même l'impression, c'est vrai que je traîne souvent à l'hôpital, mais que certains services ne sont pas très coopératifs dans la déclaration en coordination hospitalière sur le fait que quelqu'un est aux prémices de la mort encéphalique, etc., etc. Donc là, il y a des gisements quand même d'organes potentiels importants dans le cadre de l'organisation. Et puis après, je poserai une question à M. Touchard sur le statut social du donneur vivant. Parce que vous dites dans votre intervention qu'à juste titre, tous les frais sont remboursés, les frais hospitaliers. Mais quand ça se complique, le statut social du donneur, chômage, pas possibilité de reprendre son travail, protection sociale, etc. Ça, on l'a toujours pas gagné, le statut social du donneur vivant. L'année dernière, il est sorti un exposé, un rapport plutôt, qui expliquait très très bien ce cheminement, et on bloque toujours au niveau du ministère de la Santé pour effectivement donner un statut social au donneur vivant.
En ce qui concerne Donor Action, parce que c'est ça qui a fait naître ensuite Cristal Action en France. Un certain nombre d'hôpitaux, notamment sur la région sud-est, ont montré qu'il y avait une amélioration sensible du recensement des donneurs. Et donc, donc une amélioration probable, effectivement, de la perte de donneurs potentiels. Pour notre part, nous, on n'a pas choisi Donor Action, ni ensuite Crystal Action. Je n'y suis pas favorable et je m'explique. Je pense que le meilleur recensement se fait à partir du moment où il y a une étroite collaboration entre la coordination de prélèvement d'organes de l'établissement et les services de réanimation. Pour ça, il faut que les coordinations rentrent dans les services de réanimation. Ce que propose Crystal Action, c'est un recensement a posteriori. C'est-à-dire qu'on fait le bilan au bout de 6 mois ou d'un an, et on va voir tous les gens qui sont décédés, et puis après on va regarder si parmi tous ces décédés, il y a des gens qui sont potentiellement des gens qui sont passés en mort encéphalique. Donc déjà là, il faut retrouver dans le dossier médical le fait que potentiellement ce malade était passé en mort encéphalique, ce qui n'est pas toujours facile dans un dossier médical. Puis après, il faut aller rencontrer les collègues du service de réanimation pour leur dire « bah, t'as pas fait ton boulot, tu nous as pas prévenu ». Et ça, c'est peut-être pas la meilleure des façons pour faire collaborer deux équipes. Donc nous, on a choisi depuis longtemps déjà, hein, bien avant que Crystal Action existe, l'inverse, c'est-à-dire c'est la méthode qu'ont choisi un certain nombre d'hôpitaux d'Espagne, c'est-à-dire que tous les jours, les infirmières de coordination font le tour de tous les services de réanimation, vont discuter avec les équipes, discuter avec les médecins, vont aux urgences, discuter avec les urgentistes, qu'est-ce qu'ils ont vu comme patient, qu'est-ce qu'ils ont comme patient, etc., etc., etc. Et depuis qu'on a ça, on a vu, et ça, on a fait le bilan sur la région, parce qu'on a fait ça tous ensemble au niveau de la région Poitou-Charentes. C'est là que la région a décollé. Je rappelle les chiffres, on était à 14 prélèvements par million d'habitants, et on est passé à 34. Donc, et ça, ça a été une des raisons. Parce qu'à Niort, à La Rochelle, à Angoulême, à Saintes, tout le monde a fait de la même manière. Et c'est simplement des coordinations qui sont rentrées dans les services de réanimation et qui ont maintenant une collaboration très facile, et ce qui fait qu'ils les voient tous les jours. Donc même des fois, ils arrivent dans le service de réanimation et l'infirmière leur dit « on n'a pas encore eu le temps de vous appeler, vous êtes déjà là ». Bon, personnellement, je suis plutôt favorable à ça. Maintenant, je ne dis pas que Crystal Action ne sert à rien. Dans d'autres hôpitaux, les situations sont peut-être différentes, il y a peut-être moyen de travailler autrement. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de données qui permettent de montrer qu'une des solutions est meilleure que l'autre.
Je suis complètement d'accord pour dire que le statut social du donneur d'organes, c'est quand même mieux. Mais c'est pas achevé. On n'est pas allé au bout du problème. Mais bon, c'est quand même en marche, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des coûts indirects. Et ne serait-ce que le fait de s'arrêter de travailler pour quelqu'un qui est dans le libéral, qui n'est pas salarié. Il faut qu'il y ait une compensation des...
Même salarié dans une PME.
Oui, mais non. Ça pose un problème. Hein, c'est...
Oui, s'il vous plaît. Moi, je veux bien tous les. C'était bien ce que vous avez. Mais j'aimerais savoir qui peut donner et à qui. Est-ce que ma voisine de palier, pardon, peut me donner un rein? Est-ce que ma femme de ménage? Est-ce que mon boucher du coin? Ça concerne qui et pour qui? S'il vous plaît.
J'en profite pour compléter la question. Et jusqu'à quel âge, quand on est dans les conditions d'être un donneur vivant, comment ?
Pour parler des époux âgés.
Il y a deux parties de la question. D'abord, c'est quoi le contour ? Qui peut donner ? Tu en as un petit peu parlé, mais il faut que tu y reviennes. Et moi, je rajoute la question, c'est qui et jusqu'à quel âge ?
Alors, on peut, en donneur vivant, on peut prélever jusqu'à 65, 70 ans, s'il y a un état clinique parfait, au point de vue cardiaque, vasculaire, etc. Donc, On a des formules qui nous permettent d'extrapoler ce que sera la fonction rénale pour le receveur avec ce rein-là, compte tenu de la fonction rénale à deux reins chez le donneur, et également donc qui nous donne la fonction résiduelle après le don chez le donneur. Donc on a des formules, donc c'est cadré. On sait qu'on ne peut pas... On ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau de fonction rénale. On ne peut pas prélever si on n'a pas un certain niveau de fonction rénale. Donc l'âge, mais c'est très théorique, disons 70 ans. Quoi. Voilà. Et autrement, est-ce que vous pouvez recevoir un rein de votre bouchère?
Non, mais je suis en attente de bientôt, j'espère.
Si elle vous aime, sûrement. Si elle vous aime, sûrement. Et si vous l'aimez, sûrement.
Non, Guy, c'est reprendre les...
Aussi. Non, Guy, c'est... être affectivement lié et depuis plus de 2 ans. Alors, si vous êtes fidèle client...
Qu'est-ce que c'est qu'effectivement ? Même les pâquerets, c'est bon ?
Bah, comment ?
Même les pâquerets ?
Ah oui, oui, bien sûr.
Mais la question, c'est vraiment, c'est qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai répondu en plaisantant, mais ce que j'ai répondu.
Non, mais je crois, Guy, c'est une question qui est cruciale, ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire, affectivement lié, quoi. C'est ça la question.
Si on peut faire la preuve qu'on est affectivement lié au receveur potentiel, bah, je sais pas, ça peut être...
meilleur copain, là, il n'y a pas de problème, ça.
Une vie commune. Mais ça peut être aussi une amitié qui sort de l'ordinaire, mais une amitié, une vraie. Mais il faut pouvoir faire la preuve d'un lien qui date au moins de 2 ans. Alors, vous comprenez bien pourquoi. Donc voilà. Alors c'est un peu théorique et flou, mais bon.
Juridiquement, je ne sais pas comment ça se passerait si quelqu'un, j'extrapole, mais juridiquement, si quelqu'un, vous refusiez par exemple quelqu'un, comment, si vous dites par exemple non, il n'y a pas de lien d'amitié ou pas de lien affectif, parce que qu'est-ce que le lien affectif au tribunal par exemple?
Mais ça, je crois que c'est pas le médecin qui va finalement trancher
c'est
ça, là-dessus.
C'est
pas à moins que ça lui paraisse une entourloupe de première classe, oui, ce qui est parfois détectable assez vite par le comportement.
J'imagine que pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour pouvoir juger de cette modification de la loi de bioéthique, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir ce que ça va donner dans les années qui vont venir.
Mais on peut assimiler à la vie commune. Hein. Bon, il y a de l'expérience. Hein. Voilà.
2 ans de vie commune, ça, c'était. Voilà. C'est quelque chose qui
s'est fait depuis longtemps.
Par contre, effectivement, je suis d'accord avec vous, le lien affectif, c'est très, très difficile à définir. C'est vraiment une spécialité française, ça, parce que on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de précision.
Ouais, mais on le comprend bien quelque part. C'est finalement la finesse des juristes où ils arrivent à volontairement mettre des termes qui nous paraissent flous, mais c'est extrêmement réfléchi et chaque mot qui est inscrit compte pour justement pouvoir trouver un juste milieu en faisant confiance au système qui a été établi. Enfin, on peut imaginer qu'il y aura des dérives, hein, bien sûr, mais ça, après, c'est l'organisation, c'est la rigueur, c'est l'éthique dont a parlé Guy qui devrait être le contrepoids de ça. Et effectivement, quoi, l'idée de ça, c'est que le meilleur copain, il puisse donner. Voilà, je m'en doute, hein. Mais la question, c'est pour ça que je dis que la question est vraiment, la question est cruciale, quoi.
Aux USA, on peut donner un receveur non identifié. C'est le bon samaritain. Ça court pas les rues quand même, hein. Mais parfois c'est à l'origine de toute une chaîne après de transplantation en cascade, grâce au père qui naît, aux échanges, donc de couple donneur-receveur incompatibles et qui se croisent pour devenir compatibles. Et il y a des chaînes de parfois de 25-30 transplantations qui sont organisées grâce à ça. Et au départ, il y a un bon samaritain qui permet de débloquer la chaîne. C'est quand même assez fantastique. En France, quand on parle de ça, ils sont fous, ces Américains.
Question quand même, réflexion plutôt. On a le copain, il arrive voir son néphrologue, La Rochelle, New York, Sainte, et il dit, comme on entend souvent, je voudrais être inscrit sur la liste de greffe. Est-ce que tous nos amis néphrologues ont été formés ou sont formés pour lui dire, très bien, tu veux être sur la liste de greffe, mais si on discutait un peu de la greffe du vivant? Est-ce que
néphrologues... Est-ce que tous les néphrologues en parlent?
Est-ce que... Non, non, je parle... Oh là, c'est encore un stade suprême, ça, qu'ils en parlent. Est-ce qu'ils sont formés?
Est-ce qu'ils sont formés
pour devant un patient qui...
Nous, on dit, hein, mais bon, et on a quand même une réunion annuelle avec régionale pour parler de ces problèmes-là. Donc, quand vous me demandez ce qu'ils sont formés, ouais, j'espère qu'ils ne le sont pas trop mal, parce que je me sentirais responsable, mais peut-être qu'ils ne sont pas assez. Ils ne le sont peut-être pas assez, j'essaierai de voir.
Ah non, mais rassurez-vous, nous, on va s'en charger. On s'en charge, nous, tous les jours. Mais bon, c'est vrai que parler de la grève du vivant, ce n'est pas un truc à la portée de tout le monde tout de suite, surtout devant un patient qui est demandeur. Alors, quand il ne connaît pas encore la dialyse, je serais tenté de dire qu'il peut attendre encore un peu. Mais quand il s'est déjà payé 2-3 mois de dialyse ou 4 mois de dialyse et qu'il est demandeur à la greffe, c'est déjà plus le même client. Hein.
Ouais. Bon, enfin, je pense que quand même tous les Français arrivés à un certain âge doivent quand même savoir quand il y a des événements...
Oui.
Ils doivent savoir qu'on peut donner un rein, quoi, quand si sa sœur est malade ou si.
Oui, c'est ce que j'allais dire. voilà, on te trouve très optimiste. On peut dire que sûrement ça aide à la sensibilisation du public, hein, ça c'est indiscutable. Mais alors tout.
On est en train de vivre une expérience au niveau de la sauce, au niveau régional. On a lancé ce qu'on appelle le dépistage primaire de l'insuffisance rénale par bandelette urinaire. Donc depuis 2011, on le fait sur toute l'année. Et cette année, l'idée, c'est un dépistage par mois et par département. Donc ça, on commence à pas rigoler. Il faut voir ce qu'on s'entend sur les stands. Parce que pendant que le lecteur de bandelette il est en train de tester, on pose la question aux gens s'ils sont positionnés par rapport au don d'organes. Quelle est leur attitude sur le don d'organes? Je peux vous dire qu'au fin fond du département, on y était encore il y a 15 jours, pour voir ce qu'on s'entend. Et des gens qui sont positionnés, dans les grandes villes, il y en a, en campagne, c'est déjà nettement plus dur. Alors, Chambéry, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne suis pas certain qu'une tornade sur Montande ou dans ces coins-là, il y ait le réflexe don d'organes tout de suite. Hein.
J'en profite pour poser une question à Michel Pinsard. Est-ce que justement, sur les donneurs âgés, est-ce qu'il y a des différences sur les taux de refus? Parce que j'imagine que les mécanismes du refus ne doivent pas être les mêmes quand on est confronté à un donneur âgé par rapport à un donneur plus jeune. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que...
Malheureusement, on n'a pas de données précises sur... les taux de refus en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Il n'y a rien sur les tranches d'âge.
Ce serait intéressant de voir les plus de 65 ans si on pourrait imaginer que, enfin, je sais pas, intuitivement, moi je me dirais qu'il devrait y avoir quand même moins de refus dans la tranche plus de 65 ans pour des tas de raisons qu'on peut imaginer.
Ce qui a été relevé,
j'ose pas imaginer les raisons,
à plusieurs reprises.
Non, mais des raisons individuelles, je ne parle pas des raisons externes, mais...
qui sont relevées par plusieurs personnes, et pas uniquement chez nous, mais qu'on trouve assez régulièrement cité, c'est que les personnes qui sont des gens qui sont, on va dire, assez déshérités, donnent beaucoup moins facilement.
Ouais.
Et alors que les personnes qui ont réussi leur carrière, qui ont bénéficié de la société au sens large, sont plus enclins à donner que des gens qui sont dans la misère. Et ça, c'est, on le retrouve à plusieurs reprises dans un bouquin qui a été écrit à la Réunion, où on était allé à l'Académie de médecine. C'est cité aussi dans d'autres pays, notamment en Espagne. Et nous, c'est un peu ce qu'on observe aussi. Hein.
Nous, à Placé, il y a un jeune type, quand on lui a posé la question, il était avec ses deux gosses, hein. Donc il venait de pisser dans son bocal, et quand on lui a posé la question du don d'organes, je ne sais plus qui était avec moi, là. Il nous a regardé, c'était plus grand que moi, il m'a dit, ouais, tu me donnes combien ?
Un provocateur.
Il y avait Martine Herrera, une infirmière de dialyse avec nous. On a essayé d'entamer le débat et on a coupé le débat, quoi. Moi, j'ai conclu le débat en lui disant, tu vois, là, il y a le truc, tu le remplis pour l'envoyer par lequel tu n'es pas donneur d'organes, parce que c'est pas la peine de mobiliser les équipes si tu ne veux pas donner.
Non, mais, ouais, je ne suis pas du tout surpris par cette réaction. Donc, c'est un travail de longue haleine pour que ça change. Mais bon, pendant longtemps, j'ai fait aussi la coordination du prélèvement d'organes. Et je me souviens très bien avoir eu des discussions avec des gens. Si on demande des gens, si vous aviez besoin d'une greffe, est-ce que vous seriez d'accord ? C'est une question très classique. Alors, les gens disent, oui, bien sûr. Et si un jour, quelqu'un de votre famille doit donner ses organes, est-ce que vous seriez d'accord ? Ah ben là, il faut que je réfléchisse. Non, mais c'est une question classique, ou enfin, c'est fréquemment abordé, ce genre de questions. Donc,
la marchandisation des organes, c'est quand même quelque chose.
Oui, c'est une autre dimension, absolument.
Il y a sur Internet, regardez une émission il y a quelque temps, qui est passée à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a des gens qui tentent sur Internet de vendre leurs organes. Et ils avaient interviewé un mec qui était facteur, qui disait, mais moi, je ne suis pas à vendre mes rats. Donc ça, c'est un élément nouveau en France.
Un registre à vendre qu'un.
Oui, bien sûr. C'est un élément nouveau, la marchandisation des organes. On ne connaissait pas ça il y a quelques temps.
C'est-à-dire que c'était tellement caché. Ouais. Ça ne se savait pas.
L'Iran,
L'Iran, par exemple, ouais. L'Iran greffe des pays, avec des centres de très bon niveau, en Iran, et ils greffent depuis très très longtemps des gens qui...
Mais ils rémunèrent, en demeure.
Oui.
Ouais. C'est quasiment institutionnalisé.
Bien, vous avez d'autres questions ?
Une question bête, certainement, mais disons qu'on voit à Poitiers depuis des années que les chiffres sont, bons. Comment ça se fait que dans toute la France, on n'ait pas les mêmes résultats ? Parce que, je veux dire, son meilleur, mais au sujet des recensements, je veux dire, c'est pas un problème spécialement de population. Quand on passe de 23 à 30, je veux dire, si c'est 23-25, oui, ça peut être la population. Et comment vous expliquez que l'année dernière, ça a chuté ? Enfin, c'est pas comment vous l'expliquez, ça serait de savoir si vous avez eu plus d'obstacles des gens ou c'est que la population que vous avez eue était...
On a eu beaucoup plus d'opposition l'année dernière. Il faut savoir que là, c'est des chiffres sur le réseau régional, mais Poitiers, en fait, fait dériver un peu les choses parce que nous avons un service de neurochirurgie. Et le service de neurochirurgie, c'est des gens plus jeunes. C'est des gens sur lesquels on a assez fréquemment des refus. On n'est pas dans la même situation que les donneurs qu'ils ont sur Sainte ou sur La Rochelle, où ce sont des accidents vasculaires cérébraux ou des gros traumatismes qui évoluent très vite ou des pendaisons, des choses comme ça. Nous, on a l'activité neurochirurgicale où il y a eu, la plupart du temps, chez ces patients qui ont été admis en neurochirurgie, un espoir fort de tirer les gens d'affaires. Et puis finalement, ça évolue mal. Et nous, plus de 85%
des donneurs sont issus de la réa neurochirurgicale. Et c'est souvent là qu'on a des refus. On en a eu plus l'année dernière, de manière très très nette. Là, cette année, ça a rebaissé complètement, alors que par contre, on prélève comme jamais on a prélevé. Là, on prélève un patient par semaine, depuis le début de l'année. On n'a pas regardé. On est sur des petits effectifs, vous savez, c'est compliqué. On prélève 50 patients par an sur la région. On pourra peut-être d'ici quelques temps jeter un coup d'œil sur les tranches d'âge, etc. Mais là, c'est un petit peu. Et puis, c'est l'agence qui devrait, parce que eux, ils ont les chiffres. Par contre, ils n'ont pas forcément l'information. Mais ils ont les oppositions, ils ont tout ça. Mais ils n'ont jusque-là rien sorti et nous n'avons pas accès à leur base de données. Donc il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Pourquoi on prélève plus ?
Pourquoi
notre modèle n'est pas utilisé par les autres ? Pourquoi est-ce que Balladur voulait supprimer notre région alors que c'est la meilleure ?
Nous, c'est clair, c'est parce que on a trouvé, quand on a monté le réseau, on a trouvé très vite une excellente collaboration entre nous, entre les 5 hôpitaux de la région. On s'est très vite très bien entendu. Il y avait des gens qui n'avaient jamais prélevé, comme à Saintes. Il y avait des gens qui avaient prélevé il y a longtemps, mais qui ne prélevaient plus, comme à Niort. Il y avait des gens qui prélevaient un peu, Angoulême et La Rochelle, mais qui n'arrivaient pas à se dynamiser. On s'est mis tous ensemble. On s'est très, très bien entendu. Les choses ont bien marché. Et tout le monde s'est lancé tête baissée avec des projets qui ont fait bouger les hôpitaux. Après, pourquoi ça, on n'y arrive pas forcément ailleurs ? Il y a des endroits qui, en Bretagne, ils prélèvent beaucoup maintenant. Hein, depuis 3 ans, ils prélèvent beaucoup, beaucoup. Donc c'est en train de prendre, si vous voulez. Paris, ils ne prélèvent pas. Ils ne prélèvent pas à Paris. J'en sais rien.
Il y a quand même une autorité qui est l'agence de biomédecine.
Non, ce n'est pas une autorité, l'agence de biomédecine. Ils n'ont aucun pouvoir. Non, ce sont des forces de proposition et d'organisation. Mais point à la ligne.
Non, parce que je pensais... rebondir sur l'histoire qu'on a actuellement la sécurité sociale et l'économie. Là, il y a une mine d'économie à faire, en sachant que, là, en gros, une année de dialyse, une greffe égale une année de dialyse.
Ah oui, bien sûr.
Et quand on voit les sommes que ça représente, en plus, c'est pas 10 euros ou 20 euros, et qu'il vaut alors très haut, un lien gouvernemental, on fasse même pas non plus une politique d'information, une politique de sensibilisation. On ne fait rien, enfin, on ne fait pratiquement rien. Quand je vois ce qui se passe, même pour la journée nationale,
on est d'accord.
Avec les moyens, enfin, en plus avec les moyens qu'ils ont.
Maintenant, ils disent justement qu'ils n'en ont pas.
Non, mais je veux dire,
faut qu'on fasse le téléthon de la grève.
L'insuffisance rénale, c'est 6 milliards en 2025.
Non, parce qu'on est capable de nous dire, on vous coûte cher, enfin des insuffisants rénaux, mais si là il y a une solution, enfin, je veux dire, qui ne semble pas, compliquée, je sais. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui empêche, je demande à M. Carré, je demande à tout le monde, qu'est-ce qui empêche qu'on fasse simplement une campagne d'information. C'est pas des sommes en plus.
Mais c'est pas une campagne d'information. Si vous regardez le modèle espagnol, qui est quand même la référence toujours. Alors les Français le critiquent parce que ils trouvent toujours qu'il y a finalement ils prélèvent beaucoup, mais ils n'utilisent pas tous leurs reins. Enfin bon, ils chipotent sur. Mais ça n'empêche qu'ils prélèvent. Mais le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'ils se sont motivés sur le sujet, qu'ils ont investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et sur, effectivement, l'information, la sensibilisation de la population. On voit bien en France, enfin, quand il y a un clip sur le sujet, c'est une fois tous les morts de pape. Hein.
Moi, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que maintenant, on commence à douter un peu de tout, est-ce qu'il n'y a pas une pression des laboratoires par rapport... rapport aux appareils.
Ah non, 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 je crois pas. Non, là, faut pas. Non, je crois
non,
pas.
Non, mais je veux dire, ça peut.
Non.
Il y a tellement de.
Non, ce ça, non, non, je pense non. pas. Non, 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 je crois qu'il ne faut pas rentrer dans la paranoïa, mais. Je crois simplement que l'agence nous dit, nous on leur a posé plusieurs fois la question, vous faites des choses qui sont très, on parlait des cartes avec Madame Delannoy tout à l'heure, les cartes de donneurs, elles sont données de manière très confidentielle, tous les médecins n'en ont pas dans leur cabinet, les pharmaciens la plupart du temps n'en ont pas. Qui connaît aujourd'hui dans la population comment s'inscrire sur le registre de refus?
Oui. L'autre jour, on était à Poitiers, on a fait la journée du don de moelle. Je vous expliquais. Donc, on a eu 150 inscriptions sur le registre du don de moelle. Et comme on était donc à l'accueil et qu'on avait fait un questionnaire, à savoir sachant qui donnait son sang, qui était pour le don d'organes. Et lorsque l'on inscrivait les gens qui venaient s'inscrire pour le don de moelle, ils nous disaient bah oui, on est pour le don d'organes. On n'en a pas parlé. Donc, si vous en avez une, tiens, on va en prendre. Donc, on les avait laissés dedans. On en a donné sur les 150, on en a donné 75. Sachant que, et des jeunes, la moyenne d'âge était 30 ans. Donc, et il y avait au moins 25 qui avaient déjà leur carte, et le reste, bon, ils réfléchissaient. Mais c'était pour vous dire que malgré tout, je pense, alors, sachant que nous sommes allés chercher les personnes dans la rue, 100 personnes se sont inscrites. Ce sont des étudiants d'Ukraine qui sont allés chercher des jeunes dans la rue. Ils avaient leur blouse blanche et ils allaient au contact. Et c'est comme ça qu'on les a amenés à la mairie pour faire le parcours. Donc, je pense qu'il faut vraiment faut aller au contact. C'est mieux. Il n'y a pas d'autre. Et je vous assure qu'on a passé une journée extraordinaire parce que les jeunes étaient contents d'avoir. C'était pour eux la journée du don. Ils avaient leur carte, ils avaient pris leur carte, ils s'étaient inscrits. Et on a eu simplement, je crois que c'est 5% de gens qui ont été révoqués, qui ne sont pas donnés. Mais que des jeunes. Les étudiants de crème, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc je pense que c'est un moyen de communication. Je crois beaucoup.
Il y a pas de questions par ici. Merci.
Je change un petit peu de registre, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est sur le don du corps. Est-ce que, je pense à mon fils qui, comme M. Raffarin dit, il aimerait être utile, mais il a des troubles bipolaires. Il voudrait donner un organe, vous le refuseriez sûrement. Mais le don du corps, est-ce à qui on peut demander s'il y a refus? Parce que c'est déjà beaucoup de faire cette démarche. Alors si ayant des troubles bipolaires, il a un peu raté toute sa vie. Il est très pessimiste. Il a perdu l'espoir de vivre une vie normale. Donc, s'il a encore un refus en parlant d'un don du corps, parce qu'il y en a trop de. Les étudiants ont assez de.
Non. Le don du corps est tout à fait différent. Sur Poitiers, à la faculté,
faculté de médecine.
La faculté de médecine, vous pouvez, au laboratoire d'anatomie, vous renseigner. Et donc, c'est dans la nouvelle faculté de médecine, là. Et donc, ils vous donneront les informations. Et il n'y a pas de cause de refus comme dans ce cadre-là, en tout cas.
Je sais que ce serait peut-être le nombre, mais comme à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la personne doit payer.
Oui,
ça,
oui.
Ça restreint le nombre, ça peut être.
C'est payant, oui.
Oui.
700 euros.
700 euros.
Oui. 700 euros. C'est les frais d'obsèques. Parce qu'ensuite, il y a des obsèques.
C'était gratuit, mais absolument.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont servis. Sur une couverture.
Les frais d'obsèques.
Ah si, c'est pris en charge. Oui, oui, tout à fait.
Parce que c'est pour des obsèques, en fait, hein, les 700 euros. Enfin, pour bon. Vous renseigner, je vous dis au laboratoire de la Tour.
Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? Parce que le temps avance. Et puis après, peut-être deux mots de conclusion.
Nous, on a le temps, on est en déplacement. non, il y a quand même un prélèvement qu'on n'a pas abordé ce soir. C'est volontaire, je pense. C'est le prélèvement sur cœur arrêté. Apparemment, dans le plan greffe 2000, chaque fois je suis emmerdé avec les dates, 2011-2013, je crois, hein, qui a été présenté par Bora, il y a un accent plus particulier qui est mis sur le prélèvement sur le cœur arrêté. Est-ce qu'on est outillé, nous, dans la région, pour faire ça ? Non.
Non, mais tu veux peut-être commenter en une phrase, Michel, une réponse courte pour dire que quand même la réflexion elle a été intense à Poitiers. Il y a eu une évaluation de tous les moyens qu'il faudrait pour mettre en place. Puis il faut aussi savoir si on peut le faire, pas seulement techniquement, mais si il y a suffisamment de donneurs pour que ça puisse être dans cette catégorie, pour que ça puisse être mis en œuvre. Mais il y a eu une réflexion intense qui a été faite. Bon, enfin, je te laisse Michel répondre. Le dossier n'est peut-être pas complètement...
Non, parce qu'à Angers, récemment, j'étais avec les copains du Pays de Loire, et à Angers, les futurs greffés, on leur fait signer un papier.
Oui. Pour qui accepte de recevoir un rein issu de donneur. Mais le problème, c'est que il y a eu une grosse réflexion qui a été menée sur 2 ans. Bon, on a besoin de moyens supplémentaires, un petit peu, ça c'est sûr. Mais surtout, les gens de Lyon qui ont la plus grosse expérience aujourd'hui nous ont dit il faut que vous en fassiez un minimum par an pour pouvoir être très opérationnel, parce qu'il faut aller très très vite. Oui. Et donc, Angers, par exemple, ils en ont fait 2 l'année dernière.
Et Angers, c'est 250 000 habitants. Donc, c'est beaucoup plus gros que nous.
Hein. Et nous, on se dit, si c'est pour en faire 2 par an, on ne sera jamais opérationnel. Jamais. Donc, pour l'instant, on a des restrictions un peu là-dessus. Et puis, on n'a pas le matériel et les moyens humains qu'il faut pour l'instant. On a des problèmes d'organisation. Peut-être que dans la future réorganisation de l'hôpital là, avec le nouveau bâtiment qui va arriver, ça sera plus simple déjà, parce que les moyens seront plus concentrés. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on pourra revoir la question.
Bon, est-ce que vous voulez dire quelques mots de conclusion peut-être, et puis on va s'arrêter là.
Je crois que pour revenir au problème de prélèvement, c'est les sujets décédés après arrêt du cœur. On a poussé assez loin la réflexion. Donc il y a une unité mobile de réanimation cardio-respiratoire, hein, qui est capable d'aller sur place et réanimer les détresses cardio-respiratoires. Faut bien quand même comprendre que avant d'être un donneur d'organes après un arrêt cardiaque et aboutissant éventuellement à la mort encéphalique, on est un patient vivant. Il faut aller chercher ces patients qui sont en détresse pour d'abord les soigner. Puis c'est en cas d'échec, quand ils sont déclarés morts, qu'on prélève, et qu'ils sont des donneurs. Donc la stratégie qui a été mise en place prépare quand même. Il y a l'unité mobile de réanimation cardio-respiratoire. Donc on est capable d'aller chercher des sujets en détresse cardiaque, de leur mettre une ventilation et un massage cardiaque à une machine et de les rapatrier dans les temps éventuellement au CHUV. Donc c'est la première étape. Après, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver les médecins d'astreinte, les chirurgiens d'astreinte, le lieu où on va faire le conditionnement éventuel pour transformer ce patient détérioré en donneur d'organes. Et là, bon, manifestement, on n'a pas la volonté de l'établissement pour mettre quelques moyens supplémentaires pour qu'on soit capable de le faire. Il y a des volontés médicales, peut-être pas encore suffisantes, mais ce qui manque réellement, c'est la volonté de nos responsables, pour bien dire les choses. Voilà. Donc, mais si, un peu, si, quand on... Mais on voit bien, quand on demande à... On a jusqu'à 10h30.
Je suis absolument pas d'accord.
Quand on demande un temps complet de coordinateur pour s'occuper du recensement des sujets hémoracéphaliques et du prélèvement, on en dit non, vous aurez qu'un demi-temps. Donc, et si on demande une infirmière de plus dans un bloc d'urgence pour prendre en charge ce sujet-là, ça va être la croix et la bannière. Donc il y a quand même, à un moment donné, il faut décider de faire les choses. Voilà, moi j'essaye de convaincre nos responsables d'être convaincus que de temps en temps, il faut décider de mettre des moyens pour faire des choses. Et mon expérience d'ancien chef de pôle me permet de dire ça, c'est que en ce moment, on n'est pas dans une dynamique pour pouvoir effectivement faire face à ce surcroît de travail, ce surcroît de permanence, ce surcroît de... Voilà. Ben, il faut dire les choses clairement. Il y a, de temps en temps, les choses ne se font pas parce qu'on ne veut pas que ça se fasse, parce qu'il n'y a pas les moyens pour que ça se fasse, et parce que les gens qui sont sur place, qui pourraient prendre en charge, ne sont pas encouragés pour faire les choses. Michel, si tu veux t'exprimer là-dessus, tu peux. Puisque tu as été le coordonnateur aussi de ce projet, qui est finalement...
On va pas redébattre.
Qui pour l'instant est bloqué. On considère que pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies.
Ça, c'est pas le lieu. On est en train de dériver. C'était pas l'objectif de la réunion. Je pense que le problème des groupes s'y attache. Il y a ça avancé. Je pense que pour une fois, il faut s'arrêter là.
Pour l'instant, effectivement, on n'a pas, on fait pas le poids pour affronter ce genre de problème. Voilà. Donc, c'est une source potentielle d'organes, mais il faut pour avoir accès à cette source, il faut mettre en place une équipe.
Merci beaucoup de votre participation. À bientôt, René. Je crois qu'il y a eu des débats qui sont très intéressants. Je crois qu'il ne faut pas partir sur... Un sujet qui est en apparence polémique, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça.
C'est pas polémique. Il y a des gros Santarisiens qui sont arrivés à le faire. Poitiers, une dimension un peu limite pour l'instant, pour prendre ce créneau. Mais c'est important. Je ne comprends pas très bien la réaction de René, parce qu'on a bien vu, il y a un écart qui ne cesse de se creuser entre la demande, les besoins, et puis la ressource. Hein, voilà. Donc, et c'est pas. On voit que on fait un énorme effort de recensement et on pourra peut-être sans doute pas faire beaucoup plus, peut-être un peu plus, mais et on voit qu'il y a quand même une limite sur l'âge. Sur la qualité des résultats, si on force trop sur les âges extrêmes, on va quand même globalement avoir moins. Donc on voit la limite. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, prélever des organes chez des sujets plus jeunes. Où sont les sujets plus jeunes? Les sujets plus jeunes décédés, c'est ceux qui décèdent après un arrêt cardiaque, qui détruisent leur cerveau par hypoxie, ischémie après un arrêt cardiaque, où ils sont morts du cerveau, il n'y a qu'une façon de mourir. C'est... Bon. Alors on dit maintenant... décédé après arrêt du cœur, mais c'est bon, ils sont décédés. Non, on ne peut pas refaire repartir, le cerveau meurt, ils sont décédés selon la définition. Donc là on sait, il y a des donneurs plus jeunes. Et on voit bien que les résultats à long terme, ils sont aussi bons qu'actuellement les. Bon, donc ça veut bien dire quelque chose. Et puis il y a les donneurs vivants. Voilà, donc il faut que si on veut. essayer de combler un petit peu le déficit, il faut faire, je dirais, feu de tout bois. Hein. Et il faut pas dire on va faire que. Non, il faut faire arriver à convaincre qu'on peut faire plus de prélèvements chez les donneurs vivants, arriver à convaincre que peut-être un jour on sera capable de mettre en route le prélèvement chez les sujets après arrêt cardiaque. Je ne comprends pas pourquoi René se met dans cet état-là. Peut-être tu peux m'expliquer. Je pense que vous êtes des êtres adultes responsables et que vous pouvez entendre un certain nombre de choses. Et si je vous dis que les structures ne sont pas actuellement capables de nous soutenir dans ce sens-là, bah c'est.
Non, je crois que sur ce sujet-là.
Moi, je comprends très bien que je ne puisse pas tout faire.
Je ne veux pas polémiquer là-dessus du tout. Cette réflexion, on l'a menée très loin. On a des gens qui se sont fortement impliqués dans la réflexion, notamment les gens du SAMU. Et c'est important parce que ça part de deux. Ça part de toutes des équipes extra-hospitalières. Le problème, c'est qu'on rencontre d'une part des problèmes de logistique parce qu'on est actuellement encore sur des réanimations qui sont éclatées. Et notamment la réanimation de chirurgie cardiaque. Et nous, si on veut faire cette activité-là, on va avoir besoin d'outils de chirurgie cardiaque qui sont les circulations extracorporelles. Elles sont dans un autre bâtiment qui n'est pas le bâtiment où sont les réanimations. Et donc, techniquement, c'est compliqué. Il faut qu'on puisse arriver à Angers. Ils arrivent au déchocage. Ils arrivent tout de suite dans les urgences. Nous, on ne peut pas arriver au déchocage de notre déchocage de nos urgences parce que le déchocage n'est pas du tout fait pour faire fonctionner ce genre de choses. Il n'y a pas de salle d'opération où on va pouvoir. Donc, ça voudrait dire qu'ensuite, on transporte le patient alors qu'il a une assistance circulatoire avec des ascenseurs et tout. C'est techniquement compliqué. Ça. Donc, on a des problèmes logistiques. Quand le nouveau bâtiment va être fait, où on va regrouper les quatre unités de réanimation ensemble, on a prévu une salle d'emblée sur laquelle on pourra faire.
Il faut que ce soit pratiquement une salle d'op.
C'est une salle d'op qui est dans une réa. Donc, ça sera facile. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut qu'on obtienne un petit peu plus de moyens. Ça, c'est vrai, c'est pas vrai qu'à Poitiers, c'est vrai un peu partout. Nous, on est effectivement une des régions qui prélèvions le plus. On est dans les deux dernières régions en termes de moyens en ce qui concerne les infirmières et les médecins.
Ça, je suis au courant.
Donc, si vous voulez.
Voudrait bien avoir du monde en plus.
Et donc, si vous voulez, nous, on a eu une certification par l'Agence de la biomédecine qui a estimé qu'on n'avait pas besoin de moyens supplémentaires. Bon, ce que vous voulez qu'on dise.
Non, mais c'est clair.
Moi, j'ai dit, en tout cas, on ne pourra pas se lancer dans une activité de prélèvement à cœur arrêté, tout pendant que, un, on va rencontrer des problèmes logistiques, deux, qu'il nous manque des moyens. Moi, je ne suis qu'à mi-temps, théoriquement, sur l'activité, et j'ai personne d'autre en plus. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible H24 hein, pour faire cette activité-là, parce que ça ne va pas prendre longtemps, c'est vrai, mais pendant 6 heures, il faut un coordonnateur qui soit là et il faut que ce soit un coordonnateur médical. Ça ne peut pas être qu'une infirmière, car les infirmières vont avoir autre chose à faire en plus. Donc il faut un coordonnateur médical et au moins une, voire deux infirmières de coordination. Ça, c'est la totalité de notre coordination, nous. Et si on est déjà parti sur un prélèvement, on ne peut pas. Donc, il nous manque du monde, un peu. Et la dernière chose, je réinsiste là-dessus, c'est la compétence. J'ai demandé aux Lyonnais de venir. Hein. Ils sont venus me voir, ils sont venus discuter avec moi une demi-journée pour voir comment on était installés, comment on avait prévu, puisque tout ça, c'est écrit. Hein. Tout le document est fait. Mais ils nous ont dit, effectivement, je comprends que vous ne vous lanciez pas là-dedans, compte tenu de vos problèmes logistiques. Et puis, nous, on a estimé, sur quelque chose qui est très approximatif, qu'on n'a pas pu affiner, à 5 à 6 prélèvements qu'on pourrait faire par an. Les Lyonnais nous disent, si vous devez faire 5 à 6 prélèvements par an, ne faites pas. Parce que vous ne serez jamais opérationnel, parce qu'il faut mobiliser quand même beaucoup de gens hein, pour faire tout ça. Vous n'y serez jamais opérationnel vraiment. Il faut être capable d'en avoir au moins à peu près 10 à 12 par an, pour pouvoir vraiment avoir une courbe d'apprentissage qui va aller vite. Et une fois que vous savez quoi. Mais nous, si on en fait deux... Angers, ils ont commencé la première année, ils en ont fait 5. Puis ils en ont fait 3. Puis ils en ont fait 2. Et on n'a pas une courbe d'apprentissage avec ça. Il faut pouvoir apprendre vite, donc il faut en faire beaucoup sur un temps court pour pouvoir être formé, et puis ensuite le faire. Et sur une activité comme celle-là, si vous voulez, moi, j'avoue que je ne veux pas me lancer pour qu'on se ramasse. Parce que ma crainte, c'est que si jamais il y a un couac, ça soit ensuite toute l'activité qui en subisse les conséquences, notamment l'activité de prélèvement chez les autres, sur lequel on sait faire ça, parce qu'on fait bien et on fait beaucoup. Et donc, je veux pas que... Parce que c'est très vite médiatisé, ce genre de choses. Ça a déjà été médiatisé. Hein, celui de la pitié salpêtrière, qu'on avait déclaré mort, et puis qui finalement... d'accord. Ben oui.
On l'entend souvent.
Ben oui, mais vous l'entendez souvent. Mais si ça se reproduit, vous savez... ça flingue une activité complètement. Donc, il faut être très prudent sur ce genre de choses. Pour l'instant, j'ai dit, on attend un peu, on laisse mûrir un peu les choses. Quand on va être tous ensemble, déjà, ça va être plus simple, parce que ça sera plus simple en termes de moyens, parce qu'on sera regroupés. Et puis, voilà, quoi. Bon, il y a une autre source qui, malheureusement, n'est jamais citée par l'agence de biomédecine, moi je l'ai mis dans mon diaporama, c'est l'augmentation du nombre de prélèvements par donneur, enfin du nombre d'organes par donneur. C'est-à-dire, au lieu de prélever 2 organes en moyenne sur un donneur, on va en prélever 4. C'est pas du tout la même chose.
Hein. Ah non, mais c'est clair.
Et ça, ce n'est cité nulle part. Pourquoi ? Parce que là, il y a un véritable blackout de l'agence, car c'est un problème de réanimation. Et bon, je vous le dis, et je ne fais pas la langue de bois, je suis réanimateur. La réanimation des donneurs passe en dernier dans une unité de réanimation. On s'occupe des vivants avant de s'occuper des morts. Mais ça, c'est une grossière erreur. Je le dis, je l'ai écrit dans des publications, et je ne suis pas le seul, car il y a au moins 10 pays qui ont publié exactement la même chose. Donc ce n'est pas qu'en France. Et la réanimation du donneur de bonne qualité permet d'améliorer, ça c'est démontré, ça a été démontré par des papiers américains, ça a été démontré par des papiers grecs, ça a été démontré par des papiers espagnols, que quand on réanime très bien les donneurs, on améliore le nombre de d'organes prélevés. Et donc ça c'est très très important. Mais ça veut dire qu'il faut secouer les réanimateurs pour leur dire qu'il faut faire de la réanimation de bon niveau. Et ça... Pour l'instant, c'est un hic.
Bon, puis il y a un problème pour aller au fond des choses. Il y a aussi un problème d'effectif chirurgical et de bloc, de disponibilité.
J'allais venir au bloc. Voilà.
Parce que c'est déjà difficile. On voit bien d'être efficace et d'être en force pour pouvoir faire les prélèvements dans ces situations-là, qui sont des situations très lourdes à gérer. Hein, ça, c'est clair. Mais après, il faut assurer aussi que très rapidement on pourra greffer les organes prélevés chez ces sujets-là, parce que là il n'est pas question d'attendre 20 heures ou 24 heures, il faut y aller dans les 10 heures ou dans les 12 heures, donc c'est aussi toute une stratégie.
Mais l'histoire du bloc de Poitiers.
Donc il faut que tout soit réglé et marche ensemble. Hein, donc,
l'histoire du bloc de Poitiers.
Autrement, on va effectivement à l'échec. Hein.
C'est noir sur blanc. Dans le scrotra, ça s'appelait l'objet d'un chapitre. J'en parlais encore avec de l'âge. Alors récemment, je présume que le dossier n'a pas avancé.
Si, sur les blocs opératoires. Oui, il y a une salle supplémentaire qui va ouvrir. Non, mais qui ouvre là en septembre. Okay. Mais on a le même problème qu'ont tous les hôpitaux, hein, c'est qu'on manque d'anesthésistes.
On manque d'anesthésistes, on va manquer de chirurgiens,
on est moins touché à Poitiers que dans d'autres endroits.
C'est sûr.
Quand il manque 14 anesthésistes, ils ont dû arrêter leur activité de transplantation hépatique. Monsieur Salamé, qui est venu à Tours, il vient de Caen.
Je vous ferai remarquer que moi, je suis élu à l'Agence régionale de santé, notamment dans la commission organisation des soins. Toutes les commissions du CRSA sont pratiquement tous maintenant à présidence médecine libérale. On n'a pas fait de poids. Que ce soit les hospitaliers ou les usagers, on n'a pas fait de poids. Encore le
l'organisation de la conférence régionale. C'est comme ça la réalité des choses. Et chacun essaie de tirer un certain intérêt de ce qu'il y a à tirer, quoi. On voit bien ce qu'il y a de bien à l'hôpital public, c'est clair. Ne pas le voir, ce serait se boucher la face. Et dans le même temps...
Il y a un moment où ça se voit. Il y a un moment où ça se voit. Donc, je pense qu'il faut il faut en parler parce que ça nous préoccupe tous. Donc voilà. Et c'est vrai que sur des projets qui sont des projets importants comme ça, comme dit Michel, effectivement, il faut partir suffisamment solide pour ne pas aller à l'échec. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des échecs. On a le droit d'avoir des soucis, mais pas des échecs par défaut stratégique. On peut avoir des complications, mais pas par défaut stratégique, par défaut d'organisation. On n'a pas le droit. Donc, bon. Merci en tous les cas.
C'est nous qui vous remercions.